Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power Magazine des industries créatives numériques en direct jusqu'à 20h. Bonsoir à tous. Le premier tour de la présidentielle aura lieu en France dans presque une année, le 23 avril 2017. Et ce soir, un an avant, en quelque sorte, nous allons consacrer toute cette émission à la démocratie comme elle va, la démocratie représentative d'abord, la démocratie participative ensuite, la démocratie délibérative aussi, et bien sûr, et c'est notre sujet principal ce soir, les nouvelles formes de démocratie grâce au numérique. C'est ce qu'on appelle notamment la démocratie liquide, et nous allons nous interroger pour savoir si le numérique peut ou pas venir au secours de la démocratie. Il faut dire que nous sommes ici au cœur de l'actualité. Ce soir, le Parlement brésilien votera pour destituer ou pas la présidente Dilma Rousseff, et c'est un mouvement de masse dans les rues du Brésil qui a conduit à cette situation extrême. Parallèlement, ce mardi aura lieu la primaire décisive de New York où Hillary Clinton, candidate critiquée pour être, dit-on, la candidate de l'establishment démocrate, une candidate qu'on pourrait qualifier de verticale, affrontera Bernie Sanders, le candidat horizontal des réseaux sociaux et des jeunes dits du millénium. Ensuite et enfin, Nuit Debout continue son aventure à Paris et plus modestement d'ailleurs en province. Des primaires à droite, où le nombre de candidats est pléthorique, aux primaires à gauche, souhaitées par plus de 80% des sympathisants de gauche, sans oublier les initiatives innombrables comme Ma Voix, la primaire.org, Notre Primaire, etc., etc. Nous assistons à un véritable bouillonnement démocratique, peut-être inédit en France. Alors nous allons approfondir l'ensemble de ces sujets, très vaste sujet ce soir, avec trois invités. D'abord Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé Le nouvel esprit de la démocratie, publié au Seuil dans la collection La République des idées. Et avec vous, on va essayer de retrouver nos marques dans l'ensemble de ces expressions et de ces mouvements pour essayer de comprendre leur dynamique et aussi en quoi ils sont nouveaux, plus anciens sous des formes nouvelles, et comment ils peuvent permettre de faire évoluer la démocratie. À vos côtés, Bobby Demery, cofondateur de l'application mobile Gov. En un mot, Gov, ça sert à quoi ?
Gov, c'est une application qui vous permet de voter chaque jour en temps réel pour tous les hommes et femmes politiques du gouvernement et de l'opposition, et qui permet à n'importe quel citoyen de lancer ses propres sondages.
Voilà, on lance des débats.
On lance des débats. On en est à 4,5 millions d'opinions exprimées à un peu plus de 14 mois après son lancement. Donc, on lance beaucoup de débats.
Gov. On est avec vous dans un instant au cours de cette émission. Politique et données, data et politique, c'est votre sujet à vous, Arthur Muller. Vous êtes le cofondateur de Liégé Muller et Ponce, une start-up spécialisée dans la stratégie électorale et les nouvelles technologies. Notamment, votre métier, c'est la politique à l'âge des données, c'est ça ?
Tout à fait. En effet, chez Liégé Muller et Ponce, on aide les candidats, les mouvements politiques à organiser des campagnes électorales modernes, et notamment à partir du big data.
On revient sur ce sujet avec vous tout au long de cette émission. À 19h20, l'alphabet numérique, notre séquence décryptage du web. Ce soir, on s'intéressera avec vous tous d'ailleurs au Civic Tech, hein, tout un programme, les technologies au fond, qui permettent et favorisent les prises de position et les interventions et les activités à la fois civiques et donc politiques. À mes côtés tout au long de cette émission, Marjorie Paillon de France 24. Bonsoir Marjorie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Vous êtes dans ce bouillonnement d'activités,
d'application. Absolument, et on en parlera tout à l'heure.
On écoutera également ce soir Star Walker, Miles Davis, ainsi qu'un duo Jean-Michel Jarre et Edward Snowden. Et oui, tout est possible. Et tout arrive justement dans Soft Power jusqu'à 20h. À suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de Deezer, ainsi que sur Instagram, Medium, Vine, Facebook, en podcast et sur France Culture en direct.
Nous sommes de ceux qui n'arrivent plus à aller voter la tête haute.
Certains d'entre nous ne votent plus du tout.
D'autres votent blanc.
Ceux qui votent encore le font par défaut.
Avec tristesse ou colère.
Nous nous sentons piégés par un système politique
qui ne nous respecte pas,
ne nous entend pas,
et depuis quelque temps nous dégoûte même par ses frasques, ses renoncements,
ses promesses jamais tenues,
ses mensonges,
ses trahisons,
son inhumanité.
Nous sommes multiples.
Nous sommes tous différents.
Nous ne sommes pas d'accord sur tout.
Et c'est ça notre richesse.
Nos expériences de vie montrent qu'il y a tant de chemins
pour atteindre des résultats concrets.
Nous voulons expérimenter,
pas à pas.
Nous sommes en mouvement.
Nous avons arrêté de regarder vers le haut avec espoir.
Il n'y a plus rien à attendre de ceux qui nous gouvernent.
Nous en constatons l'échec.
Nous le disons sans haine.
Ni colère.
Et finalement, ils échouent les uns après les autres.
Car les règles datent des siècles passés.
Elles ne sont plus adaptées.
Et nous ?
Ici ?
Sommes-nous prêts ?
Ma voix.
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 À l'instant, une annonce du mouvement Ma Voix qui se propose de présenter des candidats de la société civile aux élections. Alors on a parlé, Loïc Blondiau, en début de cette émission, de démocratie représentative, de démocratie participative. On peut ajouter la démocratie directe, plus ancienne, la démocratie numérique, démocratie liquide, autant d'expressions qui s'annulent ou se complètent. Et qu'on pourrait, pour commencer cette émission, peut-être tenter de clarifier.
Oui, alors démocratie représentative, c'est une contradiction dans les termes d'un certain point de vue. C'est un régime, le gouvernement représentatif, dans lequel les gouvernants sont élus, mais qui s'est construit au XVIIIe siècle contre la démocratie, qui était jugée comme un régime archaïque, dangereux, le peuple ne pouvant pas se gouverner lui-même. Et ça n'est qu'au XIXe siècle que ces deux notions se sont rapprochées, démocratie et représentative, des démocraties et représentation, jusqu'à limiter le caractère démocratique du régime à l'élection. Démocratie participative, c'est une invention infiniment plus récente. Première apparition, c'est en anglais, en 1962, dans le contexte de l'activisme des étudiants pour les droits civiques. Et ce sont des gens qui demandent une vraie réforme politique, c'est-à-dire qui exigent que les citoyens puissent vraiment participer activement à la vie politique. Et puis c'est une notion qui a eu beaucoup de succès, mais qui est devenue de plus en plus floue au fil du temps, et elle désigne globalement aujourd'hui toutes les formes d'association plus ou moins directe des citoyens au processus de décision. C'est une notion qui aujourd'hui est très dévoyée, et notamment dévoyée par les usages qu'en font les autorités politiques. Le programme un petit peu subversif qu'elle contenait à l'origine, aujourd'hui c'est un peu affadi, donc j'ai tendance à me méfier beaucoup de cette notion. Je l'ai utilisée, je l'étudie, j'étudie sa circulation, mais démocratie participative aujourd'hui, ça veut dire à peu près tout et n'importe quoi.
Alors vous dites aussi dans votre livre, vous écrivez en introduction, le pouvoir des institutions représentatives est partout rogné. Donc il y a aussi d'abord et avant tout la difficulté du pouvoir représentatif d'exister, de fonctionner.
On peut parler vraiment aujourd'hui d'une déliquescence des institutions de la représentation, de la démocratie représentative. C'est un régime qui a très bien fonctionné pendant pas mal de temps, qui a réussi à intégrer ses critiques, à absorber finalement les adversaires qui lui faisait face, notamment le mouvement ouvrier, et puis aujourd'hui qui s'épuise totalement. Il y a eu un vrai problème avec la représentation aujourd'hui, jusqu'à ce que certains disent aujourd'hui qu'on assiste en ce moment, à la fin de la démocratie représentative, à une forme d'allergie à l'égard de la représentation. Et notamment les communautés numériques aujourd'hui qui inventent de nouveaux dispositifs, de nouvelles applications qui visent à transformer la démocratie, sont pour une partie très très critiques à l'égard de la représentation.
Vous prenez au sérieux, au fond, dans votre livre, dans vos travaux, toutes ces expérimentations nouvelles dont aucune n'est peut-être totalement concluante, mais malgré tout, ces initiatives qui visent à favoriser ce qu'on pourrait appeler un public, comment dire, démocratique, actif.
Absolument. Toutes ces innovations, elles valent parce que la démocratie, ça ne peut pas se réduire à un système de gouvernement. Ça ne peut pas se réduire à l'élection. En fait, toutes ces initiatives, toutes ces expériences, toutes ces applications rappellent que la démocratie, c'est une expérience, une forme de vie. Ça exige de la part des citoyens une responsabilisation. Et en fait, vous avez raison de dire que peu de ces expériences, quelques-unes ont réussi, mais peu de ces expériences sont véritablement concluantes, mais elles renouvellent très profondément notre imagination démocratique. Nous avons appris à penser en fait que les citoyens étaient des consommateurs de politique comme d'autres choses, qu'ils n'étaient pas à la hauteur finalement de ce qu'on pouvait exiger d'un gouvernant. Nous avons appris à penser que la démocratie et la politique, ça pouvait être une profession avec des spécialistes, des gens qui y consacraient toute leur vie alors que le reste des citoyens était mis à l'écart. Et c'est ce qui est en train de changer. Moi, je parle aujourd'hui de retour à l'imagination démocratique, à l'innovation démocratique et un retour assez paradoxal quelquefois puisqu'on en revient à des formes très anciennes comme le tirage au sort, comme le mandat impératif, ma voix, le mouvement...
Donc comme si on revenait au débat de Rousseau versus Sieyès.
Absolument. Absolument,
on à la fois le contrat noires. Social, le gouvernement de la Pologne, de la Corse, etc. Des livres très anciens et qui en même temps continuent à être au cœur de ce qu'on, de notre interrogation quotidienne.
Absolument, on exhume finalement des propositions, des possibilités qui ont été très largement refoulées, comme si on n'avait pas d'alternative à l'élection. Aujourd'hui, on a de plus en plus de propositions qui vont infiniment plus loin que la seule démocratie électorale.
Soft Power jusqu'à 20h en direct sur France Culture. L'actualité, comme chaque semaine, avec nos chroniqueurs et invités, Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Bobby Demery, cofondateur de l'application mobile Gov, Arthur Muller, cofondateur de Liégé Muller et Ponce, une start-up spécialisée dans la stratégie électorale, et Marjorie Paillon de France 24 à mes côtés. Trois sujets ce soir dans l'actualité, les primaires en France qui prennent de l'ampleur sur Internet, à droite comme à gauche, les primaires américaines avec Bernie Sanders face à Hillary Clinton ce mardi à New York, à une primaire décisive. Et puis pour commencer avec vous, Loïc Blondiot, je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques, mais que vous avez aussi participé, écrit beaucoup ces derniers jours sur ce mouvement Nuit Debout. Vous dites dans une interview au Monde ce week-end que la démocratie est devenue un système institutionnel très largement inaccessible aux citoyens. Nuit Debout, sans en exagérer la portée, permet de répondre à ce problème ?
Absolument. Nuit Debout, c'est la démonstration en acte qu'il existe encore un désir de politique dans certaines catégories de la population. C'est aussi la démonstration, me semble-t-il, que des citoyens peuvent se réunir de manière relativement pacifique pour s'écouter, prendre la parole. On a une forme d'agora, la démocratique, relativement ouverte, on l'a vu avec l'incident Finkielkraut hier soir, relativement ouverte, mais qui se donne à voir comme la démonstration qu'une autre manière de vivre en démocratie est possible, avec des citoyens actifs. Et moi, ce qui me frappe, c'est la qualité d'attention quand même. En fait, il y a des gens qui prennent la parole pendant des durées extrêmement minutées,
ouais.
2 minutes, 5 minutes pour Varoufakis, mais c'est tout à fait exceptionnel. Hier, il a fallu voter pour qu'il obtienne 5 minutes.
Ancien ministre de l'économie grecque. Ouais.
Voilà. Et donc, il y a une forme d'égalité radicale. Je parle de l'Assemblée Générale, hein. Je ne parle pas forcément de ce qui se joue tout autour, qui est la démonstration d'un possible démocratique différent de celui que l'on vit habituellement dans nos sociétés. Et la dimension symbolique de ce mouvement est extrêmement forte. Et on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas son ambition, en tout cas au niveau de la qualité du débat démocratique.
Alors parallèlement, c'est pas exactement le même sujet, mais malgré tout, Nuit Debout, c'est aussi une réaction à la loi travail. La loi travail, c'est une pétition qui a été signée par plus d'1 million de personnes. On voit que le numérique et en l'occurrence la place, donc le in real life et le online peuvent cohabiter d'une certaine manière actuellement.
Tout à fait. La pétition, c'est une vieille institution aussi, qui date du Moyen-Âge, qui était utilisée en Angleterre comme un des premiers instruments de la représentation que l'on retrouve, et dont auquel le numérique donne une nouvelle actualité. Et il est très clair qu'il y a une imbrication entre ces mouvements qui sont en ligne et ce qui se joue d'indispensable dans la rencontre physique qui se passe à Nuit Debout.
Pétition qui a été faite sur Change, Marjorie Paillon.
Absolument, sur Change.org, et là pour rebondir justement sur vos explications, Loïc Blondiot, on peut se demander si la pétition aujourd'hui fait l'opinion. C'est vraiment une des questions posées par toutes ces plateformes justement de pétitions en ligne, Change.org, WeSignIt, MesOpinions, Abbas.org. Change, c'est une plateforme qui a été lancée en 2007 à San Francisco par Ben Rattray. À l'époque, il voulait monter le Facebook des causes. Aujourd'hui, on en est à 135 millions d'utilisateurs dans 196 pays, dont plus de 6 millions en France. Et ça, c'est important parce que on voit bien en ce moment avec l'actualité que Change.org, ces pétitions-là participent au réveil de la société civile. On vient de citer la loi travail non merci lancée par Caroline De Haas qui a quasiment atteint 1 300 000 signataires ce soir. Mais on peut aussi se souvenir d'autres projets, d'autres pétitions comme non au projet de loi de modernisation de l'élection présidentielle, hashtag présidentielle ouverte, lancée par l'entrepreneuse Axel Tessandier et qui a très vite réuni en quelques semaines seulement près de 100 000 signataires. Il y a eu aussi la pétition pour que François Hollande, Gracie Jacqueline Sauvage, ou encore, il y a quelques années, Adrien Sergent qui se battait avec les poussins contre la réforme du statut d'auto-entrepreneur.
Une réaction sur ces pétitions de type change.org, Loïc Blondiau.
Oui, ces pétitions, elles renouvellent vraiment ce que Pierre Rosanvallon appelle la contre-démocratie, c'est-à-dire la manière dont aujourd'hui les citoyens sont capables de réagir, de critiquer, d'interpeller les gouvernements, et on a là une forme extrêmement efficace qui permet de rendre visible un mouvement d'opinion, et je pense qu'il y a un vrai renouvellement.
Et pour Rosanvallon, ces contre-pouvoirs se doivent même de critiquer, d'évaluer, de contester le pouvoir. C'est ça sa définition de la contre-démocratie.
Absolument, il n'y a pas de démocratie sans contre-démocratie, c'est-à-dire que la démocratie institutionnelle ne peut pas exister seule. Il faut qu'elle ait face à elle des gens qui fassent contrepoids. Et il est clair que les plateformes du type change.org modifient, rendent extrêmement efficace, c'est beaucoup plus facile d'organiser une pétition en ligne que de faire passer une pétition papier. Et là, il y a une vraie modernisation d'un instrument très ancien et qui est un instrument à part entière de la démocratie.
Une réaction, Bobby Denry, vous êtes cofondateur de l'application Gov.
Non, je voulais revenir à ce que vous disiez, professeur, sur la défiance généralisée vis-à-vis des politiques, mais pas de la politique. C'est ça la subtilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens en ont marre des dirigeants, mais sont vraiment intéressés par la chose publique. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour leur redonner de la parole? Comment on fait pour les réengager? Change.org, c'est un cas magnifique. C'est un site qui marche très bien, mais, et ça peut paraître contradictoire quand on dirige Gov, il faut faire attention à la dictature des sondages. L'idée, c'est pas parce que 92% des Français pensent ça que le chef de l'État ou le gouvernement doit mettre cela en place. Il y a un exemple, pour moi, le plus bel exemple d'un homme d'État qui ne prend pas en compte seulement les sondeurs, c'était il y a bien longtemps, mais c'est 81 et l'abolition de la peine de mort. C'est François Mitterrand qui, contre l'avis de la majorité des Français, décide d'abolir la peine de mort et se comporte en homme d'État. Chez nous, chez Gov, il y a énormément de débats qui sont lancés, qui recueillent parfois des opinions très favorables, et pourtant, les hommes et femmes politiques qui consultent Gov, qui l'utilisent, savent faire la différence entre un mouvement de l'opinion et quelque chose de plus profond.
Et là, on voit bien, Loïc Blondiau, les contradictions parfois de la démocratie lorsqu'elle est directe ou lorsqu'elle est représentée dans ses formes de sondage, etc. On a vu en Suisse, notamment récemment, des référendums pour demander l'expulsion des immigrés. Alors, on peut être en faveur ou contre cette proposition, mais on voit bien que laisser la parole à tous mène aussi à des sujets qui ne sont pas forcément voulus par tous.
Oui, c'est un risque, mais si on raisonne de manière un peu plus générale, quand on est citoyen, vaut-il mieux vivre en Suisse ou vaut-il mieux vivre en France si l'on veut avoir la possibilité d'influencer la décision et les choix des gouvernants? Et une des caractéristiques de l'initiative populaire ou du référendum en Suisse, c'est qu'elle ne va pas toujours dans le même sens. Elle ne débouche pas toujours sur des solutions conservatrices. Il peut arriver quelquefois que ces référendums débouchent sur des réformes qui peuvent aller dans un autre sens. Donc je suis un peu mal à l'aise avec la condescendance avec laquelle nous, Français, nous regardons le modèle suisse. Il y a une vraie démocratie en Suisse.
Il y a une critique qui est faite très souvent à l'ensemble de ces propositions, c'est qu'elles fonctionnent sur des petits territoires. Vous l'évoquez dans votre livre, c'est la critique traditionnelle. Au fond, Rousseau, ça marche très bien dans un contexte suisse, pour le coup. Peut-être pas dans des grands pays comme la France. Critique que vous rejetez également, finalement.
Je rejette cette critique pour deux raisons. Parce que, à mon avis, elle est avancée comme un argument technique, apparemment neutre, qui dit, vous avez raison, on ne peut pas pratiquer la démocratie à grande échelle, c'est réservé à des cités, etc. Je pense que cet argument, aujourd'hui, il peut être levé. Je pense que un certain nombre d'applications numériques, lorsqu'on en arrivera vraiment à garantir la loyauté du dispositif, peuvent nous permettre de mener des débats à grande échelle et de produire de la participation à grande échelle. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième argument, c'est qu'il me semble que cet argument technique, il masque un préjugé démophobe, entre guillemets, qui est beaucoup
contre
plus
la démocratie,
massif, effectivement,
démophobe.
Qui est que les citoyens ne sont pas à la hauteur et qu'il faut des gens sages pour les gouverner. Donc, je suis très mal à l'aise avec... Et effectivement, cette floraison d'innovations démocratiques sur le numérique contribue à me rendre de plus en plus perplexe à l'égard de cet argument.
Alors, autre critique, pour terminer avec Nuit Debout, vous disiez tout à l'heure que ce que vous aviez remarqué à Nuit Debout, on l'a vu, moi aussi j'y étais hier soir, on voit effectivement cette parole, on est là pour s'écouter, en même temps un mot sur l'expulsion d'Alain Finkielkraut, les patrons, les responsables des jeunes communistes ont tweeté hier soir, on la tège, hein, en français on l'a jeté, il a été expulsé de la place de manière... non pas violente physiquement, mais violente dans les mots, dans les paroles.
Assez violente quand même.
Comment vous réagissez à ça ?
Alors ça, c'est effectivement le talon d'Achille d'un mouvement qui prétend respecter de manière extrêmement scrupuleuse l'égalité, permettre l'inclusion de toute parole. C'est vrai que là, elle a été mise en défaut.
Hein, qu'Alain Finkielkraut accueille dans son émission chaque semaine sur cette antenne, hein, France Culture, dans Réplique, des invités avec lesquels il est très souvent en désaccord et il les autorise à s'exprimer.
Mais j'ai deux nuances à apporter à ça. Un, on oublie que Jean-Luc Mélenchon a fait l'objet du même traitement et que dans cette réaction, il y a aussi cette idée qu'on ne veut pas se faire dicter une volonté. Il y a un préjugé très anti-leadership.
Mais là, il n'était pas venu parler, il était juste là pour regarder. Ça, c'est semble-t-il.
Vous avez raison. Et alors, c'est la deuxième nuance que je mettrais, c'est-à-dire que ça ne s'est pas joué autour du cœur du mouvement qui est l'Assemblée Générale. Et quand vous allez sur la place de la République, vous voyez que ce qui se joue de plus clair de l'expérience démocratique, c'est dans l'Assemblée Générale, ça s'est situé aux abords, et effectivement, c'est vrai que ce mouvement qui se veut amorphe, qui essaye de combattre toutes les formes de dérives autoritaires, sectaires, etc., toute forme de sectarisme, là a été pris en défaut sur ses marges, et il est très difficile pour le service d'ordre, qui veut plus ou moins affirmé de ce mouvement de contrôler ses marges. Il semblerait qu'Alain Finkielkraut ait pu rester un certain temps avant d'être éjecté. Ce qui est très frappant, c'est que tous ceux qui détestent ce mouvement, et ils sont nombreux et de plus en plus nombreux, se servent de cet incident pour le discréditer. Je pense qu'ils vont très très vite en besogne. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment là, je pense, un excès, une surinterprétation de cet incident.
En même temps, le mot fasciste est un mot fort, les mots ont un sens qu'il ne faut peut-être pas trahir. Et puis pour terminer, la place de la République, elle est à tout le monde et donc chacun peut y aller.
Absolument. Oui, vous avez raison.
Alain Finkielkraut sera l'invité demain matin de la deuxième partie des matins sur France Culture. Il aura l'occasion de revenir sur cet incident. Autre sujet d'actualité, les primaires américaines. Ce mardi à New York, le match Hillary Clinton-Bernie Sanders sera très observé. Il y a aussi un match républicain en parallèle. Du côté démocrate, Hillary Clinton part très largement favorite. Comment est-ce que vous analysez ces nouvelles mobilisations qui font émerger ce qu'on appelle les milléniums derrière Bernie Sanders, c'est-à-dire cette génération née entre 1995 et 2005, pour le dire à gros traits?
Oui, c'est très frappant. La sociologie électorale de ces primaires montre que Bernie Sanders est soutenu par les jeunes. Je pense que l'élément le plus significatif de sa candidature, c'est le financement de sa candidature. C'est ce crowdfunding qui est vraiment...
Avec des petites sommes.
Absolument, et qui arrive à faire des sommes relativement conséquentes qui lui permettent de rester dans le jeu quand on sait à quel point l'argent compte dans la vie politique américaine, et à faire, non pas jeu égal, mais à pouvoir vraiment challenger sa concurrente Hillary Clinton. Et non, il y a quelque chose d'assez étonnant de ce sénateur du Vermont qui est une sorte de... qui se dit socialiste.
74 ans,
qui vient d'un des rares États américains, le Vermont, avec le Maine, de la Nouvelle-Angleterre, qui pratique encore aujourd'hui la démocratie directe,
les town meetings. Quelques formes de démocratie directe.
Ah, mais non, c'est beaucoup plus actif. Et je pense,
le fameux town hall meeting.
Voilà, ouais. Absolument. Et moi, je le vois comme une sorte d'héritier de cette tradition.
Marjorie Paillon.
Bel héritier, en effet. C'est vrai qu'il séduit beaucoup les millennials. Et ce qui est très, très frappant, c'est de voir à quel point sa candidature a réussi à amener, justement, à s'exprimer tous ces enfants, finalement, de la génération Occupy Wall Street, ces très jeunes démocrates, très instruits, qui sont aussi pétris du syndrome post-NSA. Ce scandale, évidemment, sur la façon dont la NSA pouvait, à un moment donné, justement, s'immiscer dans la vie de tout citoyen américain post-Edward Snowden, et on en reparlera tout à l'heure. Alors c'est vrai que Sanders, c'est le candidat de Facebook, Twitter, Instagram ou Snapchat, mais jusque-là, tous les autres candidats sont aussi munis des mêmes armes, si j'ose dire, en tout cas pour ce qui est des réseaux sociaux. Mais par contre, c'est un candidat dont on va énormément parler sur Reddit, notamment sur Google aussi. On va beaucoup chercher de donner autour de Bernie Sanders. Et puis surtout, s'il avoue qu'il n'est pas geek lui-même, il a su bien s'entourer. Il est allé recruter dans l'équipe de Barack Obama de 2008, notamment Scott Goodstein ou encore Mike Cesaro pour pouvoir bâtir justement sa campagne en ligne. Ce discours, forcément, il séduit les technophiles, il séduit aussi les gens de la Silicon Valley. Et puis, je voulais juste vous signaler quelque chose d'assez étonnant. On pourrait dire que c'est quasiment la lutte des classes à l'ère numérique, ou en tout cas au sein même de l'économie digitale. La semaine dernière, en marge d'un dîner de levée de fonds pour Hillary Clinton, qui était organisé par un investisseur de San Francisco, eh bien, des supporters de Sanders sont venus manifester en disant « Nous, on représente les tech workers, les travailleurs, les salariés du numérique. Bernie Sanders, c'est notre candidat. Hillary Clinton, elle défend les VC, les investisseurs, les patrons. Donc voilà, peut-être plus des classes à l'ère du numérique.
Arthur Müller, vous êtes cofondateur de Liéger Müller, c'est votre nom, Ponce, la start-up spécialisée dans la stratégie électorale qui s'est beaucoup nourrie des expériences américaines. Une réaction peut-être sur ce qui se passe autour de chez les démocrates, puisque vous avez été notamment très lié à la campagne d'Obama, que vous avez observé de près entre Bernie Sanders et Hillary Clinton.
Oui, tout à fait. Donc, nous, en effet, chez Liéger Müller Ponce, on est un peu peut-être des enfants des campagnes Obama 2008 et 2012. Et moi, ce qui me frappe, c'est au-delà des différences qu'on a, sur lesquelles on a bien insisté entre Sanders et Clinton, le fait que tous les deux ont repris ce qui, pour moi, est la grande leçon des campagnes Obama. C'est qu'aujourd'hui, si on veut aller parler aux électeurs, il faut une alliance entre, d'un côté, la technologie et de l'autre côté, le terrain.
Donc porte-à-porte et application mobile.
C'est ça. Donc nous, on appelle ça le porte-à-porte 2.0. L'expression veut bien dire ce qu'elle veut, ce qu'elle veut dire.
C'est-à-dire non, elle ne veut pas vraiment dire ce qu'elle veut, mais on comprend votre idée, oui.
Si, c'est-à-dire que ce qu'ont montré pas mal de travaux de recherche et qui ont été bien illustrés par les campagnes Obama et aussi par les campagnes que nous-mêmes, on essaie de mener en France, c'est que si on veut aller parler aux gens qui s'intéressent de moins en moins à la politique, qui ont de moins en moins confiance dans les partis politiques, rien ne remplace le contact direct. C'est-à-dire que le fait d'avoir des bénévoles qui vont parler à leurs voisins, à des habitants de leur commune, pour dire que eux croient encore à la politique, eux pensent que ça vaut la peine d'aller voter. Donc au cœur de ces campagnes, et ça c'est vrai pour Sanders et pour Clinton, il y a le contact direct, mais ce contact direct est appuyé sur toute une série d'outils numériques qui permettent d'organiser ces campagnes à la mode 2015, et donc d'où l'expression de porte-à-porte 2.0.
Dernier sujet d'actualité ce soir, avant d'en venir au fond, si on peut dire, même si l'actualité c'est aussi du fond. Il y a aussi des primaires françaises, on est à un an de la présidentielle en 2017, pratiquement. On voit Loïc Blondiaux se multiplier d'une manière bouillonnante, un bouillonnement d'initiatives autour des primaires, alors que ce soit des sites, que ce soit des listes, des propositions. On voit à droite un nombre de candidats importants, c'est un euphémisme, qui sont en tout cas sur la première ligne, on verra ce qui se passera cet automne. À gauche, de nombreuses initiatives également, et les Français qui semblent favorables aux primaires, de gauche y compris. Comment est-ce que vous réagissez à cet ensemble d'initiatives, non pas inédites, mais malgré tout extrêmement multiples ?
Elles ne disent pas toutes la même chose, ces primaires. Elles n'émergent pas toutes des mêmes lieux et des mêmes secteurs de la vie politique. Je pense qu'il est difficile de comparer vraiment la primaire des Républicains qui s'inscrit dans des codes relativement classiques avec des candidats qui sont issus des partis politiques. Et à l'extrême opposé, vous avez la primaire.org qui est une plateforme qui se propose de faire émerger d'en bas une candidature citoyenne. Et entre les deux, vous avez la primaire des Français, Corinne Lepage, Alexandre Jardin, qui sont des gens qui ont déjà une notoriété politique et qui essayent d'ouvrir un jeu dont il faut rappeler qu'il est verrouillé aujourd'hui par les partis politiques. En fait, ce qui motive cette multiplication d'initiatives, c'est la perspective d'une élection présidentielle qui reste le moment décisif de notre démocratie, qui soit totalement fermée et contrôlée par un tout petit nombre d'acteurs et les partis classique de notre jeu politique.
Démocratie participative, démocratie numérique, démocratie liquide, tels sont nos sujets ce soir dans Soft Power. Vous pouvez participer à ce débat en nous signalant des initiatives, des sites, des startups, tout ça sur les réseaux sociaux ou hashtag Soft Power. Vous pouvez aussi réécouter cette émission et retrouver tout un tas de références que nous citons ce soir en vous abonnant à notre podcast Soft Power sur le site France Culture ou sur iTunes, ainsi que sur nos pages Facebook et Medium.
Soft Power, l'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Et ce soir, nous évoquons les civic tech, autrement dit, Marjorie Paillon, l'ensemble des techniques et des initiatives, notamment numériques, qui ont une dimension politique et civique.
Vous l'avez très bien résumé, les civic tech, ce sont les technologies ou la technologie civique d'ailleurs. Aujourd'hui, ce qu'on cherche justement avec la civic tech, c'est de renforcer le lien démocratique entre les citoyens et le gouvernement. On va englober toutes ces technologies qui permettent d'un côté d'accroître le pouvoir des citoyens sur la vie politique et de l'autre de rendre un gouvernement peut-être plus accessible, plus efficient, plus efficace. On va pouvoir distinguer des initiatives gouvernementales en termes de civic tech. Cette fois-ci, on parlera d'ouverture du gouvernement ou des initiatives citoyennes. Là, ce sera la participation citoyenne justement qui comptera. Alors, dans l'ouverture du gouvernement, on peut parler d'ouverture des données, de transparence, de facilitation du processus de vote, de cartographie, de visualisation des données publiques ou encore de co-création des lois, des décisions gouvernementales. On en a eu un exemple dans l'actualité très récente, c'était par exemple la co-construction du projet de loi numérique avec les internautes en France pour Axel Le Maire. Du côté de la participation citoyenne, on va pouvoir parler du développement des réseaux citoyens, de l'engagement des communautés locales, du financement participatif, le revoilà, ou encore du partage des données, là aussi. La vraie question finalement, c'est de savoir si la civic tech va arriver à répondre au désir d'alternative démocratique. Et puis, je le signale, Paris a inauguré cette semaine son premier espace dédié à la civic tech. Ça s'appelle le Liberté Living Lab, 1600 mètres carrés au cœur de Paris, pour symboliser l'émergence de cette nouvelle technologie et génération surtout de start-up, d'ONG, d'associations, de chercheurs, de services publics ancrés dans le numérique. Elle notamment héberge laprimaire.org, dont on aurait pu parler tout à l'heure justement, qui cherche à faire émerger des candidats à la présidentielle en fonction des attentes des internautes. Ou encore Fluicity, ça c'est une application créée par Judith Pimodan, une ancienne journaliste, qui permet elle de redonner un souffle à la citoyenneté locale en utilisant de l'open data pour pouvoir justement ressourcer les données et les contextualiser.
Loïc Blandio, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 et auteur notamment de Le Nouvel, l'esprit de la démocratie, publié au Seuil, Collection République des Idées. Civic Tech, pour vous ?
Eh bien, pour moi, c'est une véritable fascination. C'est quelque chose d'absolument fascinant. Ce qui se joue, il n'y a pas une semaine, voire même une journée, sans que je ne découvre une nouvelle application qui vise à innover, à transformer, à hacker la démocratie. Et on a une multiplicité d'acteurs, de communautés, dans des formes très différentes.
Et c'est récent, parce que lorsqu'on lit votre livre, on s'aperçoit que c'est très peu présent. À 5-6 années d'écart,
absolument.
C'est devenu un phénomène considérable.
Massif, alors massif dans le nombre d'initiatives, ça l'est un peu moins, il faut quand même l'admettre, dans le nombre d'usagers, d'utilisateurs. Il y a quand même un démarrage qui s'opère dans certains cas, mais qui est un peu compliqué. Mais moi, ce qui me fascine dans ce mouvement, c'est que chacune de ces propositions vise à résoudre un problème aussi ancien que la démocratie représentative. C'est-à-dire, on a des propositions qui proposent de rendre possible le mandat impératif. On a des propositions qui permettent aux citoyens de contribuer. Ça, c'est une dimension absolument majeure aujourd'hui. L'exemple de la co-construction de la loi sur le numérique montre qu'aujourd'hui, on peut envisager que les citoyens participent à la fabrication des politiques publiques, à la fabrication de la loi. On a des dispositifs qui permettent à des citoyens, et ça c'est relativement nouveau, de débattre sur un mode horizontal et de manière totalement localisée. Toute chose qu'autrefois on ne pouvait pas faire physiquement.
Alors deux exemples de civic tech par deux start-up qui sont avec nous, représentées par leur fondateur ou cofondateur, Arthur Muller. En l'occurrence, là c'est une civic tech, une société, une start-up donc technologique qui investit dans le champ du civique et du politique, où vous multipliez les stratégies électorales appuyées sur les technologies.
Tout à fait. Aujourd'hui, tout le monde a le sentiment que la politique est un secteur qui va mal. pense que c'est un constat partagé par tout le monde. Et nous, on pense qu'il y a encore une chance pour la démocratie représentative et pour les partis politiques de se sauver. Parce que,
donc vous essayez d'améliorer leur fonctionnement.
On essaie d'améliorer leur fonctionnement avec cette idée que soit ils vont mourir, soit ils vont se transformer. Et nous, on pense qu'on peut les aider à se transformer parce qu'il y a quand même quelque chose qui joue encore un rôle, à mon avis, décisif aujourd'hui, qui est qu'aujourd'hui, on ne veut pas simplement que l'ensemble des gens aient l'occasion de participer. On veut aussi qu'il y ait un maximum de gens qui participent effectivement. Et pour ça, les grandes élections, comme les élections présidentielles qui vont venir, demeurent encore le moment principal de la démocratie aujourd'hui. Alors peut-être que ce sera plus vrai dans 20 ans,
alors
dans
vous,
30
vous ajoutez
ans,
la dimension des données. C'est grâce aux données qu'on peut être plus efficace, mener des campagnes plus efficaces notamment.
Oui, donc depuis maintenant à peu près 4-5 ans, le gouvernement français a mis en open data toute une série de données. Par exemple, on connaît les résultats des élections à l'échelle d'un bureau de vote, donc d'un petit quartier, depuis 2007. On connaît également toutes les données issues des recensements de l'INSEE, donc les informations socio-démographiques sur l'âge, le revenu et toute autre caractéristique, à une échelle relativement fine. Et donc, on peut construire des algorithmes, des modèles prédictifs, comme on dit, qui permettent de cibler les quartiers, de comprendre les comportements électoraux des électeurs, un peu comme le ferait un sondage, un institut de sondage, mais sans avoir à appeler des milliers et des milliers de gens au téléphone, simplement avec la technologie, avec les données.
Et ça, on sait ça, y compris dans une rue, aux États-Unis, on le sait, dans un immeuble, avec beaucoup plus de précision, puisque les données, les datas, notamment données par le census, sont beaucoup plus précises.
Oui, heureusement pour la France en tant que... Enfin, heureusement pour les citoyens français et malheureusement pour mon entreprise, en France, on n'a pas accès à des données individuelles. Nous, dans nos bases de données, on peut pas savoir...
Alors qu'aux États-Unis, on sait si vous êtes registré démocrate ou républicain ou pas, etc.
Si vous avez acheté une Volvo et si la probabilité que vous êtes démocrate, sachant que vous avez une Volvo, est importante ou faible. Non. En France, on n'a que des données à l'échelle d'un quartier, mais ça permet néanmoins d'avoir une analyse très fine qui respecte la protection de la vie privée
donc
des
ça,
citoyens.
Ça, c'est ce que fait votre start-up, l'IEG Müller-Réponse, en mêlant la stratégie électorale, les nouvelles technologies et le porte-à-porte. Bobby Denry, vous êtes cofondateur de l'application Gov. Là, en l'occurrence, c'est de la civic tech, mais appliquée au débat, d'abord et avant tout.
Alors, je voudrais simplement rappeler une chose. Vous disiez tout à l'heure que les civic tech, c'est assez nouveau. Il y a 4-5 ans, on n'entendait pas parler. On est parmi les premiers à avoir dit que le seul bastion qui n'a pas été disrupté, ou uberisé, on dirait aujourd'hui, c'est la politique. C'est le seul. L'hôtellerie a été disruptée, le commerce a été disrupté, il reste la politique. Je voudrais donner des chiffres réels, des solutions qui ont fonctionné. C'est à peu près 100 000 utilisateurs Gov. C'est 4,5 millions d'opinions exprimées. C'est tous les jours des députés qui viennent sur Gov pour faire des propositions, pour prendre le pouls de l'opinion. C'est la quasi-totalité des candidats à la primaire de la droite qui viennent sur Gov pour commencer à tester leurs propositions. C'est un outil qui, en Tunisie, a donné la parole à 800 000 opinions.
Oui, vous avez été lancé aux élections présidentielles tunisiennes en novembre 2014.
Il y a des choses qui marchent, ça existe et ça vit. On en est peut-être au début, mais si vous vouliez, professeur, des chiffres, en voilà.
C'est donc un moyen d'initier des débats, de recevoir les questions du public et de noter aussi le personnel politique, par exemple.
Notre véritable ambition, c'est d'inverser le sens du pouvoir. Faire en sorte qu'il n'aille plus du haut vers le bas, mais qu'il aille du bas vers le haut.
Pour aller plus loin sur toutes ces questions et sur la civic tech, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur les réseaux sociaux, mot-clé soft power. Vous pouvez également vous abonner au podcast L'Alphabet Numérique sur le site franceculture.fr. Et pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, consultez notre page alphabetnumérique.com. France Culture, nous sommes en direct, 19h39, dans Soft Power, magazine des industries culturelles numériques, avec Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, et deux start-upeurs, Bobby Demry de l'application Gov et Arthur Miller de la start-up L'IEG Müller-Ponce. On se retrouve juste après une pause musicale pour débattre d'un certain nombre de sujets plus concrets encore. En attendant, Holidays, ça tombe bien, c'est en plein milieu de la période de vacances scolaires par zone. We'll be right back. À l'instant, le titre Holidays, extrait du premier album de Stake Walker, duo composé du français Jean-Benoît Dunkel, qu'on connaît bien pour être l'une des moitiés du célèbre duo de la French Touch Air, et de l'Islandais Bardio Johansson. Magnifique titre, en tout cas, cette paire de vacances scolaires. Dans Soft Power, jusqu'à 20h, magazine des industries créatives numériques de France Culture en direct.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Nous sommes avec Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, auteur de Le Nouvel Esprit de la Démocratie, publié au Seuil dans la collection La République des Idées. Et puis deux start-upers, Bobby Demery, cofondateur de l'application mobile Gov, et Arthur Müller, cofondateur de Liégé, Müller et Ponce. C'est une start-up, on dirait presque une société d'avocats, mais non, c'est une start-up.
Il va falloir qu'on change de nom, je suis d'accord.
Voilà, vous allez faire, ça va être LMP, ça va devenir... Non, ça, c'est pas possible. La démocratie liquide, ou comment repenser la démocratie à l'âge numérique, c'est le sujet de Soft Power ce soir. Comment améliorer la démocratie? Quels outils pour permettre aux citoyens de participer? Comment voter, décider, choisir, pétitionner en ligne? Démocratie liquide, démocratie participative, démocratie 2.0, autant d'expressions qui permettent de penser non pas contre la démocratie, mais pour une meilleure démocratie, et des associations, des collectifs, des mouvements, de nouveaux outils nous aident aussi à imaginer ces solutions post-démocratiques, et nous en parlons ce soir. Alors tout de suite, peut-être pour vous, Loïc Blondiot, une série d'exemples qui montrent que c'est pas facile. Par exemple, tout le monde a ironisé ces derniers jours, notamment en parlant de la couleur, mais aussi de la forme, sur la canopée. Vous savez, ce nouvel endroit au centre de Paris, les Halles, la canopée qui a été inaugurée cette semaine, dont l'objectif est d'attirer 44 millions de visiteurs. C'est d'abord un projet touristique, commercial. Mais les Parisiens semblent, en tout cas, si on en juge par la presse et les réactions, très mécontents du choix de cette canopée, de la couleur, mais aussi de l'architecte choisi. Or, c'est le processus d'une consultation démocratique qui d'ailleurs a échoué, qui est reparti. Et donc on voit bien l'immense difficulté de ce type de décision prise avec les gens, parfois contre les gens, et avec le numérique.
Alors oui, la concertation autour des Halles, ça a été vraiment une histoire extrêmement complexe, extrêmement longue, et on sait effectivement que le projet qui a été adopté avait le soutien des riverains, mais aussi le soutien des commerçants, des industriels, et on ne sait pas si c'est l'avis des riverains ou si c'est l'avis des commerçants qui a prévalu. Donc ça, c'est un premier point, et c'est vrai que cette expérience de la concertation des Halles d'il y a quelques années avait soulevé un des problème récurrent de la démocratie participative, qui est que on a consulté les gens qui habitaient autour et on n'a pas consulté l'ensemble des gens qui pouvaient être concernés par ce projet. Et je pense que là, il y avait une faille originelle. Bon, mais de là à rendre la démocratie responsable du caractère jaune pisseux et des fuites de la canopée, ça me paraît un peu rapide.
Est-ce que parfois la recherche du consensus, le consensus ne peut être finalement que le résultat de ce type de démocratie participative?
Oui, il y a effectivement une sorte de tropisme en faveur du consensus qu'on observe un peu partout, y compris sur Nuit Debout, dans tous les dispositifs. Il est clair que c'est le plus petit dénominateur commun qui est objectivement a le plus de chances de l'emporter. Et c'est vrai aussi en matière d'urbanisme et en matière architecturale qu'un certain nombre d'acteurs, les architectes, sont gênés par le fait qu'ils ne puissent plus imposer une vision qui peut être dans un premier temps conflictuelle et qui se révèle à terme, on le voit avec le centre Pompidou, à terme finit par être accepté. Vous avez raison, c'est une des dimensions, il faut le constater, il faut l'admettre, de la démocratie participative. Elle favorise le consensus, ce consensus ne correspond pas toujours à ce qu'on pourrait penser être l'intérêt général.
Marjorie Paillon.
Oui, absolument. Et puis surtout, pour bien organiser justement une campagne, il faut des bons outils. L'outil du moment, celui qui sait séduire tous les candidats, notamment ceux aux primaires, il s'appelle Nation Builder. Nation Builder, ça a été finalement le vaisseau amiral de Barack Obama, notamment sur sa campagne de 2008. En fait, on parle d'un système d'exploitation de communauté. Vous savez qu'on va toujours reprendre ce vocabulaire très lié au logiciel politique, à la façon dont on peut justement hacker les campagnes. Là, on parle de système d'exploitation de communauté. Au départ, il était plutôt adapté aux ONG, à des associations, à des artistes même. Et puis finalement, ce sont les partis politiques et les institutionnels qui s'en sont emparés au fur et à mesure. Sa force, c'est très simple. C'est un outil tout en un. On géolocalise les militants, on peut communiquer, on peut organiser des événements et puis surtout on peut lever des fonds. Et la beauté dans tout ça, c'est qu'il y a une véritable interaction entre toutes ces fonctionnalités, ce qui en fait du coup aujourd'hui encore une fois l'outil phare des campagnes. Bernie Sanders utilise un outil similaire, c'est pas directement Nation Builder en effet, il a utilisé plutôt lui la plateforme montée par Blue State Digital, dont vous êtes je crois un petit peu inspiré Arthur Muller. Et puis en France, les gens ont utilisé Nation Builder, c'est d'abord Patrick Minucci, faut se le rappeler, c'est le premier à l'avoir utilisé lors des dernières municipales à Marseille. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, lui, est très fier de promouvoir sa campagne numérique grâce encore une fois à cette plateforme. Mais Alain Juppé, François Fillon et Bruno Le Maire sont aussi sur les rangs.
Alors vous, Arthur Muller, chez Liégier Muller Pons, vous avez adapté, vous avez votre propre Nation Builder qui s'appelle 50 plus 1 et qui colle là encore avec les données, et donc c'est du Nation Builder plus des données.
Exactement, c'est un peu le Nation Builder à la française si on veut, au sens où on a essayé de reprendre les idées qu'on avait vues aux États-Unis et de les adapter au contexte français. Et donc en effet, une des genres de choses qu'on propose, eh ben, c'est de permettre aux gens de mieux comprendre leur territoire, mieux connaître les électeurs sur leur territoire. Un des intérêts des campagnes électorales et des partis politiques, c'est qu'on rencontre beaucoup de monde lorsqu'on est dans une campagne électorale, et on peut aujourd'hui permettre aux militants des partis politique de faire remonter les conversations qu'ils ont eues avec des gens sur un marché, avec des gens en porte-à-porte, et faire remonter ces données de manière anonymisée. Il ne s'agit pas d'identifier les personnes qui ont dit ça, mais pour permettre aux candidats ensuite d'analyser l'opinion, de repérer des tendances qui sont en train d'émerger et d'adapter leur stratégie en fonction de ça.
Lorsqu'on observe ces évolutions très très nombreuses, on peut aussi penser parfois que ce sont des outils de com et que finalement, derrière un projet de participation, on l'a vu parfois avec des propositions de la ville de Paris, on se demande si c'est pas participer pour participer, au fond, tout simplement une habile campagne de communication. Alors j'aimerais peut-être poser la question à Bobby Damery pour commencer, puisque au fond vous faites de la communication, on a des sondages, on demande leur avis aux gens, mais est-ce que de cette communication peut sortir des propositions et des changements réels ?
Ça arrive. C'est d'ailleurs arrivé avec le budget participatif de la mairie de Paris.
Qui est en cours de débat et
absolument,
qui sera voté, alors je ne sais pas trop comment, cet automne.
En tout cas, ce que nous remarquons, c'est que lorsque vous donnez la parole aux gens, il en ressort quelque chose de toujours intéressant. On a souvent l'impression que ça va être un défouloir, un peu comme les réseaux sociaux. Et en réalité, il y a un tel besoin d'expression qu'ils font des propositions, qu'ils aspirent à les voir mettre en place, et les politiques comprennent ça très bien. Donc, par ma petite expérience au sein de Gov, je pense que oui, c'est parfois de la communication, mais souvent, ça donne quelque chose.
Une réaction, allez-y.
Oui, bien sûr que c'est de la com. Mais une des choses qu'on a vues, c'est que la meilleure manière de gagner des voix quand on est un homme politique, c'est d'aller parler aux gens. Et donc, en ce sens, il y a, à mon avis, une alliance entre l'intérêt bien compris des hommes politiques qui tiennent à leur réélection et aussi l'intérêt démocratique plus large, parce que le seul moyen d'être convaincant aujourd'hui, c'est pas d'avoir des éléments de langage au journal de 20h, c'est pas comme ça qu'on gagne une élection aujourd'hui, c'est en ayant des centaines de milliers de bénévoles qui vont parler à leurs voisins. Et donc je pense qu'il n'y a pas vraiment d'opposition à avoir entre les intérêts de la communication et les intérêts démocratiques en l'occurrence.
Sur ce sujet, Loïc Blondiaux.
Oui, alors là on parle des dispositifs de ce qu'on a pourrait appeler la démocratie participative institutionnalisée. Ça n'est pas les propositions qui viennent pour essayer de transformer radicalement le système. Si on parle de ces dispositifs, il faut, d'un certain point de vue, qu'ils ne lèsent personne pour réussir. Il faut que les citoyens y trouvent quelque chose, il faut que les autorités y trouvent aussi quelque chose. Et c'est vrai que cette dimension-là de la démocratie participative qui consiste à, de l'intérieur, obliger les autorités à bouger un peu, au risque qu'elles essayent d'instrumentaliser et de capter ces innovations. La force du système de la représentation, comme celle du système capitaliste, c'est d'avoir réussi à intégrer sa propre critique au cours des siècles, c'est-à-dire de s'être renouvelé en injectant des instruments de modernisation, et ils y parviennent parfaitement. If you gonna tell a story, come with some attitude,
man. Miles Davis. My name's Dave Braden, Rolling Stone magazine.
I'm here to do your comeback story.
Okay, move back a little bit.
Yeah. Oh!
Don't send people to my house.
You have new material.
My material. My session tape.
You're under contract here.
We actually own that tape.
Miles!
You own? How much money you got on you?
On écoute un extrait bien sûr de Miles Davis. Juste avant, c'était un extrait de la bande originale, la bande annonce du film. Le biopic est consacré à Miles Davis, un film intitulé Miles Ahead, déjà sorti aux États-Unis, qui sortira cette semaine en Angleterre à une date non encore annoncée, mais bientôt, nous dit-on, en France. Avant d'être paranoïaque, bipolaire, vulnérable, drogué ou triste, Miles Davis, dans le film Miles Ahead, est d'abord et avant tout cool. Hein, cette coolitude est au cœur de ce film signé Don Cheadle, lequel est à la fois acteur, auteur et cinéaste. La naissance du cool, c'est aussi bien sûr le titre de l'album de référence de Miles Davis en 1957. Vous êtes dans Soft Power jusqu'à 20h, magazine des industries créatives numériques de France Culture. Et on va terminer peu à peu cette émission consacrée à la démocratie participative, à la démocratie numérique, à la démocratie liquide, avec Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques, Bobby Demery, cofondateur de l'application Gov, et Arthur Muller, cofondateur de Liégé Muller et Ponce, avec peut-être quelques exemples. On parle, le président de la République, le Premier ministre ont annoncé la tenue d'un référendum, en l'occurrence une forme de démocratie directe, concernant le projet de Notre-Dame-des-Landes. Loïc Blondiot, vous pensez que c'est pertinent? Vous pensez que c'est possible? À quelle échelle d'ailleurs territoriale on va le faire?
Alors oui, Notre-Dame-des-Landes, c'est une controverse qui est très symptomatique de ce qui se joue aujourd'hui dans la confrontation de deux légitimités, de deux définitions de l'intérêt général. Celle qui est portée par l'État, qui est portée par un certain nombre d'élus, et celle qui est portée
beaucoup
par
d'élus locaux, pour le coup.
Beaucoup d'élus locaux, et puis celle qui est portée par des collectifs, quelques élus locaux aussi, mais qui se prononcent aussi au nom de l'intérêt général et qui récusent finalement ce qu'ils sentent être une forme d'imposition en force d'une décision.
Alors on fait quoi? On fait un référendum?
Oui,
comme
moi
ça
j'ai fait partie d'une commission de modernisation du dialogue environnemental. J'étais partisan du référendum, oui, mais pas comme ça. Là, le diable est dans les détails. Dans tout ce qui est innovation démocratique...
Oui, mais on n'en sortira jamais. Si c'est pas le bon référendum, comment
on
va faire?
L'échelle de territoire, le département, c'est évidemment une échelle inadaptée à un référendum de ce type. Il est évident que c'est un projet d'intérêt national et qui concerne une zone territoriale beaucoup plus large. Je pense que c'est vraiment dommage de l'utiliser comme ça.
Arthur Muller, sur cette question.
La question de Notre-Dame-des-Landes, moi je la trouve intéressante parce qu'elle illustre une tendance qu'on a partout aujourd'hui, qui est que c'est pas simplement les partis politiques ou les institutions publiques qui font face à une demande de davantage de participation, c'est aussi les industriels dans les grands projets qui veulent mener. Alors là, Notre-Dame-des-Landes, c'est pas simplement un projet industriel, mais c'est aussi un projet industriel. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'usines, de champs d'éoliennes et autres qui ont des difficultés à s'implanter parce que les riverains, les habitants demandent à être davantage associés. Donc là, on voit que ça va au-delà de simplement du champ politique et ça touche aussi tous les projets industriels ou autres.
Ce qui frappe aujourd'hui, au-delà de ce référendum, on aurait pu évoquer plus longuement le Grenelle de l'environnement, les débats participatifs qui avaient été lancés par Ségolène Royal, par exemple, le modèle du budget participatif aussi. On en revient au Brésil, mais ça avait été mis en place à Porto Alegre dès 1988. Modèle du débat public, le modèle du jury de citoyens, tout ça. Loïc Blondiot, vous l'évoquez dans votre livre Le nouvel esprit de la démocratie. Mais aujourd'hui, on est quand même frappé, j'y reviens, mais par ce bouillonnement incroyable autour du numérique et de la démocratie, avec sorte de Rousseau 2.0, on pourrait presque dire.
C'est un peu ça. Il y a une formidable ambition. Moi, j'avais été amené à discuter avec des entrepreneurs de Civic Tech il n'y a pas très longtemps. J'avais conclu leurs travaux en disant on se croirait non pas à la veille du 14 juillet 1789, mais après, comme si on anticipait l'effondrement de nos institutions. On essayait de trouver des solutions
à
nouvelles.
À l'époque, les libelles, les journaux, tout ça se multipliait. Aujourd'hui, c'est les start-up, c'est les applications, c'est les sites web.
Voilà, c'est un ensemble de dispositifs qui sont proposés comme susceptibles de faire vivre une démocratie, et c'est très fascinant.
Vous avez une réaction, Bobby Demery?
On va décapiter personne.
Oui, mais ma réaction, Bobby Demery. On prend juste deux exemples tout simples. La loi El Khomri, vous avez plus d'un million de signatures sur Change et quelques centaines de milliers de personnes dans la rue. Les mobilisations ont changé. Elles se font plus dans la rue, elles se font sur la toile. C'est
un exemple.
Bah, Nuit debout, n'oubliez pas que c'est à l'origine quelques centaines de personnes dans la rue. Et aujourd'hui,
alors on pourrait d'ailleurs l'appeler soirée debout, hein, parce que hier soir à 2h du matin, il n'y avait plus personne pratiquement sur la place, et plus de CRS que de gens de nuit debout. Mais dans la journée, il y avait du monde, et ça a dû reprendre ce soir. On n'y est pas en ce moment puisqu'on est en direct à France Culture, mais on a suivi, on continuera à suivre ces évolutions. Et bien, merci à tous d'avoir participé à cette émission. On se quitte avec, quelque chose d'un peu plus original, si on peut dire. C'est un mélange
inédit entre un musicien un peu square, voilà, dont on retrouve quelques souvenirs musicaux, et Edward Snowden. Ils ont fait ensemble un morceau baptisé Exit. Edward Snowden et Jean-Michel Jarre dans Exit. Exit, ça tombe bien pour en terminer cette émission. Pour aller plus loin sur les sujets de démocratie participative, démocratie liquide et démocratie numérique, vous pouvez trouver tous les ouvrages, les articles, les sites internet et les applications que nous avons cités au cours de cette émission sous la forme d'une bibliographie très détaillée, soit sur la page Facebook de Soft Power en tapant Soft Power sur Facebook, soit sur le site Medium au mot-clé démocratie liquide, soit enfin, comme toujours, sur la page Soft Power sur le site de France Culture. On poursuivra également ce débat demain matin dans les matins de France Culture, où Guillaume Erner recevra Pierre Rosanvallon et le professeur au Collège de France se demandera si la démocratie est encore représentative. Demain matin donc dans les matins de France Culture. Merci infiniment à Loïc Blondiot, Bobby Demery et Arthur Miller. Merci aussi à Marjorie Paillon de France 24 et à Mathilde Wagman qui a préparé cette émission assistée de David Laveau. Merci enfin à Renato Soldanoff pour les recherches qu'il a effectuées pour nous sur la démocratie liquide. À la régie ce soir, Alexandre Dang. Soft Power, une émission d'Ophraïm Martel réalisée ce soir par Perret Legras. Vous voyez, Jean-Michel Jarre, ça nous rappelle des souvenirs. Il reste très répétitif, hein, le grand-père, voire l'arrière-grand-père de la musique électronique. Soft Power donc réalisé ce soir par Perret Legras. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.